magazine des Nations Unies.
Millions de personnes sont analphabètes en RDC, dont 39% des femmes. Information livrée par l'UNESCO à l'occasion de la célébration jeudi dernier du 50e anniversaire de la Journée internationale de l'alphabétisation. Les détails dans un instant. La MONUSCO confirme l'afflux d'au moins 20 000 réfugiés sud-soudanais dans l'est aux provinces orientales en RDC. Ces hommes, femmes et enfants fuient les atrocités de la guerre dans leur pays. Les précisions avec les porte-parole de la MONUSCO dans cette édition. Enfin, le choléra progresse dans 6 provinces de l'ouest de la RDC. 6 000 cas déjà enregistrés cette année dans cette partie du pays. Le gouvernement et ses partenaires dont l'UNICEF se mobilisent pour faire face à cette épidémie. Nous suivrons à ce sujet la chargée des urgences à l'UNICEF RDC.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bienvenue à ce nouveau numéro des magazines des Nations Unies que nous ouvrons par cette nouvelle. 19 millions de personnes analphabètes en RDC, dont 39% des femmes, soit un tiers qui ne savent ni lire ni écrire. C'est ce qu'a révélé l'UNESCO jeudi 8 septembre dernier à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de la Journée internationale de l'alphabétisation. L'UNESCO estime que cette catégorie de personnes sont les plus exposées aux problèmes de santé, à l'exploitation et aux violations des droits de l'homme. Pour remédier à cette situation, cette agence onusienne propose, entre autres, le renforcement de l'éducation non formelle inscrite dans le programme de développement durable à l'horizon 2030. Je vous propose un extrait de l'interview que Abdourahman Diallo, représentant et chef de bureau de l'UNESCO en RDC, a accordé à Jean-Pierre Elali Ikoko.
Nous plaidons pour que ce droit à cet accès à l'alphabétisation soit effectif dans ce pays. Que faisons-nous, l'UNESCO et l'ensemble des partenaires du système éducatif? C'est accompagner les efforts du gouvernement et les acteurs principaux au niveau étatique qui s'occupent de ce sous-secteur de l'éducation, c'est le ministère des Affaires sociales. Donc notre rôle est d'accompagner ce sous-secteur à s'organiser, à avoir une plateforme de discussion, d'échange, puis que nous faisons au niveau des statistiques pour l'ensemble du secteur éducatif, mais aussi pour le sous-secteur de l'éducation non formelle. L'appui aussi va dans la recherche-action. Actuellement, l'UNESCO accompagne aussi le ministère et le pays au travers d'un projet qui mesure les apprentissages et les acquis au niveau de l'alphabétisation.
Abdourahman Diallo sera notre invité tout à l'heure. Autre actualité de la semaine, c'est la présence d'au moins 20 000 réfugiés sud-soudanais sur le sol congolais. Une présence confirmée mercredi dernier par le porte-parole de la MONUSCO lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier. La mission onusienne affirme aussi avoir évacué certains éléments des armées pour des raisons humanitaires et sanitaires. On écoute à ce sujet Félix Prosper Bass dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Elali Ikoko.
Il y a eu une vague de population qui s'est déplacée justement du Sud-Soudan vers la République démocratique du Congo, particulièrement dans la province orientale. Il y a eu cet état de fait qui fait que certains éléments armés de la faction de Riek Machar avec ce mouvement de population ont traversé au niveau de la République démocratique du Congo. Ceci, nous le confirmons. Nous avons eu à évacuer certains éléments qui étaient en très mauvais état de santé pour des raisons humanitaires afin de les mettre en des situations où une assistance médicale de manière très générale peut leur être apportée. Une mission des Nations Unies s'est rendue aujourd'hui dans ce secteur-là pour non seulement faire une évaluation sécuritaire, mais aussi faire une évaluation médicale.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
6 000 cas enregistrés dans 6 provinces à l'ouest de la RDC, soit 1000 fois le nombre de cas l'année dernière. Le choléra progresse, notamment le long du fleuve Congo, a indiqué l'UNICEF lors d'un briefing avec la presse à Kinshasa jeudi dernier. Mais le gouvernement, avec l'appui de l'UNICEF et des autres partenaires, met le paquet pour contrer l'épidémie. Jean-Pierre Elali Ikoko a approché Madame Aude Rigaud, chef de la section urgence à l'UNICEF RDC. Je vous propose de suivre leur entretien.
Madame Aude Rigaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de la section urgence à l'UNICEF, ici en République démocratique du Congo. On vient tout de suite de parler avec la presse. Est-ce que vous pouvez nous dire les pourquoi de cette rencontre avec la presse aujourd'hui?
Oui, nous désirions en fait informer la presse de la situation actuelle de l'épidémie du choléra en République démocratique du Congo et notamment notre préoccupation par rapport à la flambée de l'épidémie tout le long du lit du fleuve du Congo, notamment dans les provinces de la Tchopo, de la Mangala, de l'Équateur où le nombre de cas a dépassé 6000 et qui a été multiplié par 100 par rapport au nombre de cas qui avait été reporté l'année dernière.
Vous avez parlé de 3 mois maintenant. Quel est l'état de lieu exactement de l'épidémie aujourd'hui?
Alors cette épidémie est extrêmement difficile à contrôler. Il y a beaucoup d'actions qui ont été entreprises sur le terrain. Mais malheureusement, par le fait qu'elle bouge assez rapidement entre différentes zones de santé, elle demande une mobilité accrue dans des espaces isolés, vraiment difficiles d'accès. Et donc les équipes sur le terrain ont des difficultés actuellement à pouvoir anticiper la prise en charge. Et on doit répondre malheureusement, être réactif. Et on a besoin de pouvoir multiplier le nombre d'unités mobiles pour pouvoir en fait répondre efficacement l'épidémie.
Oui, des zones difficiles d'accès, c'est un défi à relever, mais aussi pour mettre en exergue les prises en charge et même la prévention. Et là, vous avez besoin aussi des moyens, c'est aussi un défi. On a parlé des 14 millions de dollars supplémentaires qu'il faut. Est-ce que de ce côté-là, on a des réponses jusque-là au niveau des partenaires?
Alors, effectivement, il y a un plan qui a été élaboré avec le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ce plan a été lancé récemment et donc, malheureusement, jusqu'à ce jour, on est en train de lever, essayer de mobiliser des ressources supplémentaires pour pouvoir répondre efficacement à cette épidémie et notamment d'intensifier les actions qui sont dans ces zones isolées. Nous continuons le plaidoyer auprès de donateurs pour pouvoir essayer de lever ces montants.
Parmi les 6 provinces touchées, il y a aussi la ville de Kinshasa. Quelle est la situation actuellement à Kinshasa? Est-ce que Kinshasa est à la portée des risques ou bien c'est aussi il faut des mesures à prendre?
Alors, la province de Kinshasa, effectivement, il y a eu des cas qui ont été relevés au niveau de Maluku, de la zone de centre. Sur Maluku, nous pourrons vous donner l'information plus tard, mais par contre, en fait, non, le nombre de cas, en plus, n'est pas propre à la province de Kinshasa. Ce sont des cas qui sont venus à travers le fleuve Congo, sur des bateaux, ont été référés et directement aux zones de santé et pris en charge.
Donc, rien d'alarmant à Kinshasa?
En fait, ce qui est le plus important à dire, c'est qu'en fait, les populations doivent avoir des bonnes pratiques d'hygiène et de prévention afin d'éviter que la maladie se propage, que si une personne est malade, elle doit être immédiatement référée au niveau des structures de santé pour la prise en charge. Et que également avec les armateurs, il est important de pouvoir, à l'arrivée au port, pouvoir référer les cas au niveau des structures de santé et éviter que les personnes se dispersent dans la ville de Kinshasa. La ville n'est pas à risque, mais elle doit être sensibilisée, conscientisée que le choléra n'est pas loin et donc on peut prévenir cette maladie et la traiter très facilement.
Oui, et Madame Oderigo, il y a une autre question qui me vient à l'esprit, c'est que cette maladie coïncide justement avec la rentrée des classes, non seulement à Kinshasa mais aussi à l'intérieur du pays. Est-ce que l'UNICEF a prévu aussi des stratégies de prévention au niveau des écoles, notamment à Kinshasa où on sait qu'il y a beaucoup d'élèves dans des écoles et les infrastructures aussi sanitaires font défaut, notamment les installations hygiéniques?
Tout à fait. En fait, l'hygiène, et on a travaillé avec l'éducation, toutes les sections d'éducation, pour justement, dans le cadre du développement des messages, que dans les messages de la rentrée scolaire soient également intégrés des messages liés aux bonnes pratiques d'hygiène. Bien sûr, on a conscience qu'il y a la rentrée scolaire et que c'est aussi un risque de propagation supplémentaire. Donc effectivement, ces messages sont intégrés dans ceux de la rentrée scolaire.
À l'issue de la rencontre avec les médias aujourd'hui, vous avez un message à la population congolaise qui vous suit en ce moment, et même aux autorités du pays et même le gouvernement dans son ensemble?
Il est important de prendre conscience que le choléra est une maladie qu'on peut prévenir de manière très simple avec des bonnes pratiques d'hygiène, le lavage de mains, la protection de l'eau, boire de l'eau potable, essayer de la bouillir si on peut la bouillir. Et ces pratiques très simples peuvent vous éviter simplement d'avoir la maladie du choléra. Le choléra est une maladie également qu'on soigne facilement si on réfère la personne le plus rapidement possible aux structures de santé.
Donc on peut bien prévenir les choléras et éviter aussi les choléras. C'est avec ces termes que nous terminons notre interview. Et Madame Aude Rigaud, nous vous remercions.
Merci à vous.
ouvrons cette page des nouvelles en bref par la situation dans le monde. Selon un rapport de l'UNICEF publié le 7 septembre 2016, près de 50 millions d'enfants du monde sont déclarés enfants déracinés. 28 millions de ces enfants sont des enfants déplacés de force par les conflits et les violences à l'intérieur comme à l'extérieur. Et en République démocratique du Congo, ils sont environ 4,5 millions ces enfants déracinés, dont 1,6 million en âge scolaire du primaire, précise encore les rapports de l'UNICEF. Concernant la scolarité, la représentation de l'UNESCO en RDC salue la rentrée scolaire 2016-2017 et se félicite de la détermination des parents congolais qui ont inscrit près de 2 millions d'enfants pour cette année scolaire. C'est dans un message rendu public le 5 septembre 2016, date officielle de la rentrée des classes, que le représentant de l'UNICEF en RDC a exprimé ses sentiments. Je souhaite une excellente rentrée scolaire à tous les enfants, en particulier les plus petits qui ont atteint l'âge de la scolarité et qui vont effectuer leur premier pas à l'école, a notamment déclaré M. Abdourahmane Diallo. Enfin, deux activistes du Nord Kivu remportent le prix Héros IUNC 2016. Il s'agit de Bantou Lukambo et Josué Mukura, avec trois autres lauréats d'autres pays, un Indien et deux Russes. Ces activistes ont été proclamés au cours du Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature tenu à Hawaï aux États-Unis le 3 septembre dernier. Les lauréats congolais ont gagné ces prix pour leur action en faveur de la protection du parc national des Virunga.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La RDC compte 19 millions de personnes analphabètes, dont 39% des femmes, soit un tiers, qui ne savent ni lire ni écrire. C'est ce qu'a révélé l'UNESCO ce jeudi 8 septembre, à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de la Journée internationale de l'alphabétisation. L'UNESCO estime que cette catégorie de personnes sont les plus exposées aux problèmes de santé, à l'exploitation et aux violations des droits de l'homme. Pour remédier à cette situation, cette agence onusienne propose entre autres, le renforcement de l'éducation non formelle inscrite dans le programme de développement durable à l'horizon 2030. Je vous propose l'interview que Abdourahmane Diallo, représentant et chef de bureau de l'UNESCO en RDC, a accordé à Jean-Pierre Elali Ikoko.
Monsieur Abdourahmane Diallo, bonjour.
Bonjour.
Le monde entier célèbre ce 8 septembre, le 50e anniversaire de la Journée internationale de l'alphabétisation. Est-ce que nous pouvons en connaître pour la portée de cette journée?
Oui, merci pour cette invitation. Merci pour Radio Okapi qui nous ouvre ses studios pour pouvoir communiquer, échanger sur cette célébration. Vous l'avez rappelé, le 50e anniversaire de la Journée internationale de l'alphabétisation que la communauté internationale célèbre et que nous allons faire ici en République démocratique du Congo avec vous tous. L'alphabétisation, c'est un agenda prioritaire que l'UNESCO s'attelle à inscrire, à faire inscrire au niveau international et au niveau national depuis plus de 50 ans, et ce, à la demande de ses États membres, dont la République démocratique du Congo. S'assurer que cette thématique reste prioritaire au niveau national. Pourquoi ? Il ne faut pas laisser les 750 millions d'analphabètes qui sont en marge de la société parce qu'ils ne peuvent ni lire. Et au niveau de la RDC, les dernières statistiques de 2014 enregistrent à peu près 27,1%, soit avec l'estimation de 71 millions d'habitants, nous aurons à peu près 19 millions actuellement de Congolais qui sont analphabètes et qui ne savent donc ni lire ni écrire, dont malheureusement 39% donc de la population féminine analphabète qui est donc qui a un visage féminin. L'un des défis de cette journée, c'est un moment dans l'année où nous allons attirer l'attention de la communauté au niveau national, des autorités et des acteurs de terrain aussi sur l'importance de cet agenda. Donc associer cette part de la communauté, leur donner le minimum pour pouvoir donc acquérir les compétences et le savoir pour pouvoir lire et écrire.
Voilà, avant de passer à la partie nationale, je voudrais revenir sur le plan international. 50 ans après la célébration de cet anniversaire, est-ce que nous pouvons savoir ce qui a été fait sur le plan international, les efforts qui ont été faits et aussi les défis qui restent à relever dans le domaine, bien sûr, de l'éducation et notamment en ce qui concerne justement l'alphabétisation dans le monde?
Oui, c'est d'ailleurs pour cela que la thématique qui a été choisie cette année, c'est lire le passé, faire le point sur tout ce que nous avons eu à faire pendant 50 ans et écrire tous ensemble le futur. Donc, voir les nouvelles solutions pour l'avenir. Beaucoup d'efforts ont été enregistrés, beaucoup de progrès ont été faits, notamment au niveau donc des taux en matière d'alphabétisme que je vais partager avec vous au niveau global, au niveau régional et au niveau national. Par exemple, depuis 2000, l'alphabétisme n'a cessé de progresser pour atteindre aujourd'hui à peu près 91% à l'échelle mondiale. Donc grâce à l'amélioration de l'accès à la scolarité et à l'instauration de l'enseignement obligatoire dans presque tous les pays. Au niveau régional, en Afrique subsaharienne, ce taux d'alphabétisme a atteint aujourd'hui 71% à peu près. Mais malheureusement, le taux des femmes en Afrique, lui, reste à peu près au niveau de 65%. Ce sont les progrès qui ont été enregistrés depuis 2000. Au niveau national, ainsi que je le disais tantôt, nous enregistrons aujourd'hui, selon les dernières statistiques EDS de 2014, 27,1% de taux d'analphabétisme, soit donc à peu près aujourd'hui 19 millions de la population.
Et les défis qui restent à relever sur le plan international en ce qui concerne justement l'alphabétisation?
Ben écoutez, les défis, c'est de pouvoir donc, et selon d'ailleurs le nouvel agenda ODD de 2030, c'est de pouvoir nous assurer que ces opportunités d'apprentissage tout au long de la vie vont être vraiment effectives dans l'ensemble des pays et que l'on puisse aussi mettre un accent nouveau sur l'acquisition des compétences en lieu et place de la simple maîtrise de la lecture et de l'écriture. C'est tout le sens de l'objectif du développement durable, l'ODD 4, donc, qui a été adopté parmi les 17 l'année dernière. Et l'ODD 4 en particulier vise à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Donc l'objectif est que d'ici 2030, tous les jeunes et une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter.
Alors, revenons sur le plan national. Vous avez dit vous-même que la RDC compte 19 millions d'analphabètes. C'est beaucoup. Un tiers de femmes. Quelles sont les grandes solutions qu'on peut proposer? Parce que lorsqu'on a 19 millions de personnes qui ne savent ni lire ni écrire, c'est quand même un handicap pour le développement du pays.
Et c'est vraiment un handicap, c'est une menace pour l'avenir. On ne peut pas être conscient de ce fait d'avoir 19 millions de la population qui est à côté de nous et qui ne fait pas partie du même cercle, qui ne peut pas accéder aux connaissances, qui est handicapée. C'est une injustice. C'est pour ça que nous plaidons pour que ce droit à cette éducation, à cet accès à l'alphabétisation soit effectif dans ce pays. Que faisons-nous, l'UNESCO et l'ensemble des partenaires du système éducatif? C'est accompagner les efforts du gouvernement parce que c'est le gouvernement qui a la responsabilité première. Notre rôle est d'accompagner les efforts du gouvernement. Et les acteurs principaux au niveau étatique qui s'occupent de ce sous-secteur de l'éducation, c'est le ministère des Affaires sociales. Notre rôle est d'accompagner ce sous-secteur à s'organiser, à avoir une plateforme de discussion, d'échange,
au niveau du ministère, cette plateforme s'appelle d'ailleurs le comité de concertation au niveau de ce sous-secteur. Notre rôle est de nous assurer que ce sous-secteur a une feuille de route. Cette feuille de route, c'est la stratégie sous-sectorielle de ce sous-secteur qui est insérée dans la plateforme nationale, c'est-à-dire la stratégie nationale de l'éducation et de la formation pour la période 2006-2025. Notre rôle est d'accompagner le sous-secteur et l'ensemble du secteur à détenir, à posséder des données. C'est l'appui que nous faisons au niveau des statistiques pour l'ensemble du secteur éducatif, mais aussi pour le sous-secteur de l'éducation non formelle. L'appui aussi va dans la recherche-action. Actuellement, l'UNESCO accompagne aussi le ministère et le pays au travers d'un projet qui mesure les apprentissages et l'évolution et les acquis au niveau de l'alphabétisation. Donc là, je viens d'énumérer quelques axes d'action. Bien sûr, je dirais que la priorité est reste dans le plaidoyer afin que nous nous assurions que les autorités sont dûment conscientes, et c'est notre rôle aussi de le leur rappeler et aussi de mobiliser les autres partenaires et l'éducation, ainsi que le rappel l'objectif de l'ODD, c'est tout au long de la vie. Donc c'est de la maternelle, du préscolaire, jusqu'aux universités et même après les universités.
Est-ce qu'au début de cette année scolaire justement, où les parents ont beaucoup de difficultés pour faire scolariser les enfants, est-ce que l'UNESCO a un message à l'égard non seulement des autorités, mais aussi des familles congolaises et même des élèves au sein de cette année scolaire?
Aux enfants de la République démocratique du Congo, l'éducation, le droit à l'éducation doit être respecté ici, et nous les partenaires, nous allons appuyer les autorités et les différents acteurs pour qu'ils puissent faire de ce droit à l'éducation une réalité sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo.
Monsieur Diallo, Radio Capi vous remercie.
C'est nous qui vous remercions et nous vous souhaitons une bonne journée.
Rendons-nous dans l'ex-province du Katanga où les ACR et la CNR ont lancé le 7 septembre 2016 une opération de vérification des documents d'identification auprès des réfugiés. Question d'actualiser les données côté ACR. Colin Djuma Moussompo.
Selon l'administrateur associé à la protection au ACR Kalemi, il s'agit d'une opération de vérification du statut complet du réfugié. Pour Rushan Chabdinov, cette opération n'a aucun caractère spécial ni extraordinaire. Il est juste question de mettre à jour toutes les données enregistrées il y a longtemps se rapportant au statut du réfugié ou du demandeur d'asile. Cette mise à jour permettra donc, d'une part, de mieux planifier les différentes activités du ACR, de l'autre, d'avoir les effectifs exacts et fiables, a-t-il renchéri. Il faut noter que pour cette première journée, on a noté un engouement des réfugiés ainsi que des demandeurs d'asile qui se sont fait accompagner de leurs membres de famille. Tous étaient munis de leurs documents tels les certificats de mariage ou actes de naissance des enfants. Au sujet des documents leur conférant le statut de réfugié, certains ont indiqué qu'ils sont l'objet de tracasseries de la part des services de l'État. Témoignage.
Il y a des tracasseries parce qu'il y a ceux-là qui sont emprisonnés.
Le ACR a promis de sensibiliser les services concernés pour qu'ils reconnaissent tout de même les documents remis aux réfugiés. Lubumbashi, Colin Djuma Moussompo, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
La question de ce dimanche a trait au dialogue. Et c'est le porte-parole de la MONUSCO, Félix Prosper Bass, qui répond.
Aubin Kandembi pour les comptes du journal La Prospérité. Monsieur Félix, à la ligne, ouvrons les choses comme si nous sommes en train d'aller vers une confrontation. Kanoé Nanga a proposé 3 scénarios avant une éventuelle organisation des élections dans ces pays. Il parle de la refonte du fichier, ce qui prendrait 16 mois et un jour. Selon les opposants, nous serons déjà dans le dépassement du délai constitutionnel, ce qui constituerait une violation de la Constitution. Je ne sais pas quel message aujourd'hui, vous, la MONUSCO, pouvez-vous adresser aux opposants congolais actuellement?
Merci pour cette question. Je pense qu'elle est fondamentale. C'est à cela que s'attelle tous les jours le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans le cadre de ses bons offices. C'est aussi à cela que travaillent tous les partenaires de la République démocratique du Congo, mais aussi d'autres Congolais, notamment la CENCO et tous ceux qui sont préoccupés par cette situation que nous vivons aujourd'hui. Vous avez raison, je l'ai dit tantôt à l'entame de cette conférence de presse, que les avis sont divergents, les avis sont partagés, mais au moins ils sont exprimés de la manière la plus calme et de la manière la plus paisible, parce que actuellement, comme je dis, c'est un choc d'idées, un choc de propositions que nous enregistrons tous les jours, ce qui augure quand même d'un mouvement dans ce sens-là, parce qu'au moins les gens se parlent, les gens expriment leur point de vue, c'est déjà très bien. Je n'ai pas la prétention à titre personnel de délivrer un message aux hommes politiques congolais, mais je pense que ce soit la CENCO, que ce soit le nonce apostolique, que ce soit les différentes chancelleries, tout le monde appelle les acteurs politiques congolais à la retenue, premièrement, et à s'engager dans ce dialogue national, parce que, comme vous l'avez dit vous-même, les avis sont divergents, certains veulent y aller, certains ne veulent pas y aller, mais au moins la discussion n'est pas rompue, les portes restent ouvertes pour venir au dialogue, mais aussi les acteurs, le facilitateur, le groupe international de soutien aux facilitateurs, tout le monde travaille à ce que les gens se parlent.
Magazine des Nations Unies, Portrait du jour.
Je réponds au nom de Madame Agnès Fariala. Je suis mère de 7 enfants. Actuellement, je suis le chef de bureau de l'UNICEF pour le compte du Grand Équateur. Je suis médecin de formation. Avant l'UNICEF, j'ai commencé comme médecin traitant dans la province du Sud Kivu, ensuite médecin directeur, médecin chef de zone, et c'est de là que je quittais pour être à l'UNICEF aujourd'hui. Je suis à l'UNICEF depuis 2008. Si je dois parler de mes fonctions actuelles, je dirais que quand j'arrive à l'UNICEF le matin, je dois d'abord prendre la température du bureau, me rassurer que tous les collègues sont là, et de voir quelles sont les priorités de la journée. Et ensuite, j'essaye de checker mes mails pour voir quels sont les mails prioritaires. Et là, je dirais que les mails prioritaires, ce sont les mails qui viennent de ma hiérarchie. Et de voir aussi quels sont les mails qui demandent à ce qu'on arrive à agir de toute urgence. Une fois que j'ai à planifier ma journée, alors là, j'essaie de voir quelles sont les tâches que je dois accomplir en priorité et aussi continuer avec la routine. Je dirais que mon temps libre, c'est plus le week-end, parce que mon travail me prend pratiquement tout le temps. Et des fois, je n'ai pas assez de temps pour consacrer à ma famille. C'est pourquoi mon week-end, il est un peu, je dirais... J'essaie d'être un peu une mère de famille, quoi. Je ne suis pas seulement une mère pour les enfants de la RDC. Je dois aussi accorder un espace pour mes propres enfants, pour ma famille. Donc, mon week-end, c'est d'abord pour essayer de me refaire aussi la santé. Et là, je tiens toujours à observer ma marche, parce que chaque samedi, le matin, je fais un peu la marche pour la santé. Et dans la suite, j'essaie de faire autre chose que le travail du bureau. Donc, je suis vraiment une femme au foyer pendant le week-end. Bon, je pense que si vous posez la question même à mes enfants, parce que chaque fois on fait un peu un truc comme génie en herbe, si vous leur posez la question quel est le repas préféré de maman, ils vous diront les riz au pondou. Ça, j'adore, je peux manger ça du lundi à dimanche sans me fatiguer. Bon, la musique, je dirais que j'aime bien la musique chrétienne. Et ce que j'aime, ça mes enfants le savent aussi, j'aime beaucoup le théâtre, parce que dans ma jeunesse, j'étais actrice de théâtre et ça j'aime beaucoup. Même à la télé, on se dispute un peu avec les enfants quand on essaie de zapper. Il y a le théâtre sur une chaîne, je leur dis écoutez, donnez-moi un peu de temps, je vais suivre la pièce. Voilà. Bon, pour le sport, je dirais que quand j'étais jeune, j'ai joué au volleyball. Mais actuellement, bon, je dirais que le sport n'est plus vraiment mon fort, quoi. Il n'y a pas un sport que je regarde avec passion à la télé. principal, la marche que je fais chaque samedi. Mon rêve, et ça je l'ai discuté avec mon père quand il était vivant, son souhait était de me voir être responsable d'une structure sanitaire. Donc si jamais je devais, après UNICEF, choisir d'être indépendante, je pense que j'aurais à créer ma propre clinique pour être au service de la nation. J'adresse le petit coucou à tous les auditeurs de la radio Okapi. C'est une radio que j'aime bien suivre le matin pour être à jour en rapport avec les informations du pays. Et bon courage à tous les journalistes qui font un travail formidable de nous informer au jour le jour sur les réalités de notre pays. Et je dis aussi bon courage à tous mes collègues de l'UNICEF. Je sais que nous sommes engagés dans une bataille pour la cause des enfants. Et je pense que les défis sont énormes, mais nous ne reculons pas et nous pensons que nous allons y parvenir.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Notez ces quelques rendez-vous des Nations Unies dans vos agendas. 12 septembre, journée des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud. 15 septembre, journée internationale de la démocratie. Et le 16 septembre, c'est la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. C'est la fin de ce numéro de magazine des Nations Unies, coordonné par Jean-Pierre Elali Ikoko, qui était aussi au reportage avec Honoré et Missinga. Alain Ngoy était à la technique et moi, Suzanne Zobo-Audra, je voulais présenter toute l'équipe des magazines des Nations Unies. Vous souhaite une excellente journée dominicale et rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle édition de notre magazine.